Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour et bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106 pour Radio HDR et Principe Actif, chaque lundi à 18h, rediffusé les samedis à 10h. Mais vous pouvez aussi vous connecter sur radio.le106.com, écouter la web radio du 106 et nous entendre en direct chaque soir de concert. Au programme aujourd'hui, les interviews de Philippe Catherine, Léo Vauquelin et Malik Djoudi.
Radio Lomax.
Et nous sommes en direct sur la web radio du 106. Nous accueillons Philippe Catherine. Bonsoir à vous, Philippe Catherine.
Bonsoir.
Et merci pour cette converse avec vous. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019, jour de mobilisation contre une réforme des retraites en France. Alors ça implique plusieurs choses. D'abord, et nous nous en excusons auprès de nos auditeurs, nous ne pouvons pas vous poser l'ensemble des questions que nous avions prévues de vous poser pour cause de grève du zèle. Et puis nous avons également recueilli ce matin dans le cortège quelques questions qui vous sont adressées. En ce qui vous concerne d'ailleurs, vous n'êtes donc pas en grève. Un artiste, ça ne se met pas en grève.
À vrai dire, je... Non, bah les retraites, je sais même pas, je renvoie jamais mon papier, donc il faut croire que j'ai pas du tout envie d'être en retraite, hein, personnellement, ça concerne que moi, hein, mais moi j'ai pas du tout envie d'être en retraite, et puis je sais pas trop de quoi il s'agit autrement, de quoi ça parle.
Mais est-ce que vous êtes...
J'ai entendu des slogans dans Rouen.
Oui. Il y a eu du monde, effectivement.
Ah oui, il y a eu du monde ?
Ouais.
Ok.
Les gens craignent pour leur retraite.
C'est ça.
Contrairement à vous.
Peut-être à tort, en ce qui me concerne.
Vous avez un rond-point à votre nom, à Thouars, dans les Deux-Sèvres, entre Poitiers et Cholet, où vous avez vécu vos premières années. Une forme de lien, finalement, avec les Gilets jaunes. Vous êtes allé le voir ? Est-ce que vous savez s'il a été occupé, ce rond-point ?
Mais parce que non, il y avait une demande... Parce que moi, je suis né à Thouars... Et également, c'est-à-dire le rond-point n'a pas été, ne m'a pas du tout été.
Ah, finalement, on l'a pas nommé. Philippe Catherine, ce rond-point.
Mais pas du tout.
Ah bon, d'accord. J'avais vu ça moi.
Parce qu'il y a eu des pétitions qui voulaient que ça s'appelle comme ça, ce rond-point. Je n'étais pas contre. Mm-hmm. Parce que l'idée de, enfin, bon, une maison de la culture, ça me plairait pas des masses. Mais par contre, si un jour il y avait une maison de la culture Philippe Catherine à Chantonnay ou de là d'où je viens en Vendée, bon, bien sûr, pourquoi pas, post-mortem. Mais je préfère l'idée du rond-point, parce que le rond-point, bien sûr, il y a eu les Gilets jaunes, où c'était quand même des endroits de conversation, de débat, hein, d'après ce que j'ai compris. Et puis c'est surtout... Le moment où tu dois choisir ta direction au rond-point. Donc c'est un moment très crucial. Alors j'aimais beaucoup l'idée, mais je pense que le maire n'était pas heureux de cette idée. J'en veux à personne, il n'y a aucun problème.
Vous avez l'impression d'être un rond-point aujourd'hui ou non ?
Moi ?
Oui.
Si je suis un rond-point ?
Est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé à un rond-point ? Un moment où il faut choisir sa direction ?
Oui.
Ah oui ?
C'est-à-dire que tous les jours, j'ai l'impression d'être un rond-point. Je suis peut-être moi-même un rond-point, si ça se trouve. Un point rond, hein. C'est ça, un point rond. Mais la France a multiplié les ronds-points depuis combien de temps ? Peut-être 20 ans, il y a des ronds-points en voiture, voilà, ça n'arrête jamais.
Ouais, c'est vrai.
Comme quoi...
Donc le rond-point, c'est important.
Oui, mais on vit sur une incertitude.
Ouais, c'est vrai.
C'est quand même une bonne nouvelle.
On va continuer à parler un petit peu de cette région. On a reçu Malik Djoudi, il y a peu, qui chantait Stone avec toi en venant ici répondre à quelques questions. Et lui, il est de Poitiers. Sont passés également par ici François-Marie de François and the Atlas Mountain, de Sainte, en Charente, ou Forever Pavot et Émile Sornin de Poitou-Charente. Il y a une petite clique avec laquelle vous pourriez vous entendre, moi j'ai l'impression. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe encore dans cette région ou pas ?
Oui, enfin, je connais chacun d'eux, en tout cas de ce qu'ils font, bien sûr, je le connais. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup leur travail respectif. Après, est-ce que c'est décisif le fait qu'ils viennent d'ici ? J'en sais rien. Enfin, d'ici, disons, du Grand Ouest, hein, si c'est ça que vous voulez dire.
Oui.
Je
ne
sais pas si c'est décisif pour eux. C'est difficile à percevoir ce genre de choses. Déjà pour soi, on ne se rend pas vraiment compte. Hein. Alors pour les autres, c'est difficile. Moi, je viens de Vendée. Des fois, je comprends la relation de l'homme que je suis avec l'endroit d'où je viens. Puis, une relation que je vois très bien, très nette. Puis, le lendemain, ça s'est complètement évaporé. Donc, c'est très...
Et ce serait quoi cette relation ?
Ben, la relation, je la vois beaucoup, moi... Enfin, je l'ai surtout vue il y a peut-être un an, où j'étais vachement énervé contre tout. Je voyais la relation avec les guerres de Vendée. Mon père, il s'était intéressé aux guerres de Vendée à mon âge, à 50 ans. Il avait acheté plein de bouquins et tout ça, parce que les guerres de Vendée avaient été vachement enterrées par l'éducation nationale et l'histoire de France, hein, tout simplement. Mmh. Donc, mon père était allé chercher lui-même les bouquins, les informations, s'était beaucoup intéressé à ça. Il nous avait beaucoup raconté ça, mais nous, on avait quel âge 25 ans peut-être, donc c'était pas trop notre affaire hein, quand il nous racontait ça à ma sœur et mes frères aussi, et mon frère. Et à 50 ans, ça m'a vachement intéressé, les guerres de Vendée, parce que on était finalement, c'est un génocide. On arrive à quelque chose comme 600 000 morts, c'est considérable, et de ma famille aussi, donc... Et j'ai compris que c'est d'où je venais, parce que, enfin, moi, j'ai pas de doute sur l'endroit d'où je viens. Tant mieux ou hélas, j'en sais rien. Enfin, je sais très, c'est sur deux cantons, hein, en Vendée. Et les guerres de Vendée, disons que ça me parlait quand j'étais au moment où j'étais énervé à 50 ans, donc il y a quelques mois, hein, parce que bon, ben c'est à contre-courant de l'histoire, hein, les Vendéens se sont insurgés alors qu'on pour quelque chose au fond qui n'a pas tenu, hein, c'est-à-dire la royauté et puis l'Église, ils voulaient maintenir ça, hein. Bon, peu importe les raisons pour lesquelles ils sont maintenus, il y avait quand même une rébellion, une révolte.
Ce sont les révolutionnaires qui ont...
Ce sont des contre-révolutionnaires.
Vendée, ouais.
Les Vendéens. Et alors, je me suis senti proche de ça à ce moment-là. Ah, ouais. Et puis aujourd'hui, ça s'est peut-être un peu évaporé. Enfin, j'ai quelque chose peut-être d'un contre-révolutionnaire.
Mais cette colère-là, elle apparaît dans cet album que vous nous proposez là,
Je crois. Hein.
Ouais.
Je crois que c'est assez net, hein, sur ce disque. Ouais.
Mais les Gilets jaunes, c'est un peu des Vendéens. Alors, ils sont fait tuer, mais...
Oui, les raisons sont... et les méthodes ne sont pas les mêmes, bien sûr. Mmh. Puis l'époque n'est plus aussi violente, bien sûr. Parce que vous vous rendez compte que 600 000 morts, enfin, bon, les chiffres divergent, mais enfin, il se trouve que quand même, ça ressemble quand même à un génocide.
Bien sûr,
sur lequel
On s'est assis,
disons, confortablement.
Hein. Ouais. Alors une question d'une personne croisée dans la manif ce matin, Nicolas. Vous savez que grâce à vous, l'alcool a été autorisé ici au 106.
Oui.
Vous vous souvenez de cet épisode.
Oui.
Vu la puissance que vous semblez pouvoir développer, on vient de vivre un épisode malheureux avec un gros nuage venant d'une usine Lubrizol. Nicolas se demandait ce que vous pouviez faire pour nous.
Qu'est-ce que je pourrais faire
pour débloquer la situation.
Oui, débloquer. Mais alors, on en est où dans cette situation ? Il se trouve que...
On attend.
Vous entendez des résultats encore ?
On attend encore des résultats. Il y a certains résultats qui sont tombés.
C'est terrifiant.
Ouais. Et puis, y a des gens qui voilà, craignent encore pour leur santé dans les années à venir, forcément.
Ah oui, évidemment. C'est horrible. Mais quand est-ce qu'ils donnent les résultats? En fait, ils n'osent pas. Ils les ont vus, puis ils ne veulent pas les donner.
Je ne sais pas. Il y a déjà des résultats qui sont arrivés. En tout cas, des résultats seraient relativement positifs dans les terres, à 40 km d'ici et jusqu'ici, pour le moment, en tout cas, en ce qui concerne...
Ah bon?
Ouais, voilà. Bon. Mais bon, de ce qu'on a respiré, de ce qui s'est passé dans l'air à ce moment-là, pour le moment, on n'est pas encore bien convaincu. En tout cas, les Rouennais ne sont pas encore bien convaincus.
Oui, j'imagine. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Enfin, j'avais vu des images à l'époque, que les gens disent « Non, vous en faites pas, mais ça va, il n'y a pas de problème. » On a quand même cette impression. Hein. « Ça va, c'est bon. » Bon, si j'ai pu aider à la consommation... de quelques bières, de l'alcool, ici, j'ai pu aider à un moment donné, tant mieux. Après, pour cette histoire, il faut que j'ouvre le dossier. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais je ne pourrais pas faire ça dans la soirée, c'est sûr.
En dehors de cet épisode au 106, vous avez quelques affinités avec Rouen. J'ai cru comprendre qu'il y avait un de vos musiciens sur scène qui était rouennais.
Tout à fait.
Ouais. Oui. Jean-Emmanuel Delux, journaliste, chanteur, qui vient de faire paraître un album intitulé Rouen Dreams, dont vous avez partagé un des morceaux dans une playlist. Oui. Vous avez également tourné dans deux films d'un ancien étudiant des Beaux-Arts de Rouen, Benoît Forgeard, Gaz de France et Yves. Vous pouvez peut-être du coup nous proposer la vision que vous pouvez avoir de Rouen au travers de ces personnages-là.
Le guitariste s'appelle Gabriel Gosse. Il vient effectivement de Rouen. Et il sera sur scène avec nous ce soir. Il y aura ses parents dans la salle, paraît-il. Pour ce qui est de Jean-Emmanuel Delux, oui, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, que je suis parce que c'est quelqu'un d'unique. Hein, on n'en fait pas deux comme ça, vous le connaissez sûrement.
Ouais.
Et sa musique, pour l'avoir vu en concert, je trouve que c'est une musique qui lui ressemble, c'est-à-dire que c'est un chanteur complètement unique. Et puis, j'ai mis une playlist, dans une playlist, je crois que c'était pour les Inrecuptibles, une chanson de lui où il est dit une justesse, je trouve. Enfin, quelque chose de juste, à mon avis, c'est au niveau des réseaux sociaux, d'Internet, ou je ne sais pas quoi, enfin, tout ce qui est de communication. Réseau, tout ça. Ou si on poste des choses à droite à gauche sur Instagram ou tout ça. C'est, dit-il dans sa chanson, chante-t-il d'ailleurs ? Non, il le dit. Il dit c'est pour aller vers l'immortalité. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va se sentir immortel avec cette idée de partager des choses sur Internet. C'est pas con.
D'ailleurs, on reste souvent sur les réseaux, même une fois qu'on est mort. On reste, les profils restent.
C'est ça qui est fou.
Ouais, ouais.
Une fois qu'on est mort, on a toujours son compte Instagram.
Non, c'est ça.
c'est quelque chose de fabuleux. Puis ça paraît infini. Donc il est pour moi un philosophe et aussi un érudit de la pop considérable, Jean-Emmanuel Delux. Ouais, c'est une figure que je compte bien voir ce soir, d'ailleurs. Et pour ce qui est de Benoît Forgeard, effectivement, après il est allé dans une autre école, mais je savais que les Beaux-Arts, il les avait fait ici. Et Benoît Forgeard, qui est un réalisateur très, très original, que j'adore. Et c'est vrai que j'ai eu la joie de collaborer avec lui. Et c'est un esprit très, très particulier. Son cinéma va certainement devenir classique dans quelques années. Pour l'instant, il reste assez confiné, mais parce qu'il est tellement original qu'il faut du temps pour apprécier. Enfin, disons, le temps joue pour ses films, ça c'est sûr.
Et du coup, ces personnages-là, s'ils vous inspiraient une vision de Rouen, ce serait laquelle ?
Ouais, il y a Vincent Delerme aussi, que je connais un peu. Il y a toute une forme de... Pour moi, Rouen, c'est la littérature. Alors, c'est peut-être... c'est Flaubert. Hein, donc, j'arrive pas à détacher Rouen de Flaubert. Bon,
c'est
et quand
Flaubert
je me promenais dans les rues, c'est ce que je voyais.
Ouais.
Je voyais Flaubert partout. Pardon ?
Jesse Corneille aussi, c'est Maupassant.
Maupassant aussi. Mais c'est vrai que Flaubert reste vraiment la figure pour moi. Donc ça passe tout par ce filtre, hein, y compris Jean-Emmanuel Deluxe, Forgeard, Delerme. Tout passe par le filtre Flaubert quand je suis à Rouen. Voilà. Bon, je vous le dis. Hein.
C'est parfait. On passe à l'interview Grève Duzel. C'est-à-dire des questions peut-être un petit peu laconiques. Vous avez fait quoi aujourd'hui ?
Ben, je me suis récuré. Hein. Je ne vous dis pas quoi, mais je me suis bien récuré à l'hôtel. Parce que j'ai traversé un pont de façon un peu fastidieuse.
Le pont Flaubert.
Oui, qui n'est pas étudié du tout pour les piétons. Enfin, bon, ça reste.
Ah oui.
Je le dirais à Yvon Robert, si jamais je le vois.
Vous connaissez bien Yvon Robert,
non, pas du tout.
Le maire de Rouen.
J'ai lu un article sur lui.
Ah.
Aujourd'hui.
Qui disait.
Je sais plus. Ah bon. Il parlait de son 70e anniversaire.
Ah oui, ouais. Qui va quitter la mairie de Rouen.
Ah bon, d'accord.
Ouais, il ne se représente pas.
Tu es très apprécié apparemment, non ?
Oui, c'est un maire apprécié, je pense, oui, des Rouennais.
Parce qu'il a été élu et puis réélu après.
Oui.
Quand même, c'est pas rien.
C'est vrai. Vous n'avez pas écrit aujourd'hui ? Vous n'écrivez pas tous les jours ?
Ah non, loin de là.
Est-ce que vous avez prononcé un mot qui vous a particulièrement caressé l'oreille ?
Ben, il y avait cette histoire de récuré, je suis bien désolé, mais avec Pépé qui s'occupe de la régie, c'est vrai que je lui ai dit je me suis récuré, puis il m'a dit l'oignon. Récuré l'oignon, c'est un. Voilà, j'ai du mal à m'en défaire là, de cette image. L'image est prégnante, c'est sûr. Il va se développer en cours de soirée.
Et durant le concert, peut-être même.
Peut-être, oui.
Vous avez fait de belles rencontres ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Oui, le gars de l'hôtel était sympathique. On a parlé de guitare, puis il y avait une guitare qui était là, avec un ukulélé comme une mère et un enfant. On parlait de cela avec cet homme. C'était bien.
Vous avez écouté quoi comme musique ?
J'ai écouté le dernier disque de... Enfin, j'ai écouté Tame Impala. Le deuxième disque de Tame Impala, qui remonte quand même à 2012, ou peut-être comme ça, je ne sais plus quand. Et puis j'ai écouté aussi le dernier Ichon, qui fait partie du collectif Bon Gamin à Montreuil. Et Ichon, c'est une personnalité que j'aime beaucoup, que je suis de très près, très élégante. Il y a quelque chose de très élégant dans ce qu'il fait. Et il a sorti une dernière vidéo, on peut dire, je ne sais pas comment appeler ça, un son, hein, qui s'appelle Maintenant, ici maintenant, je crois, que j'ai beaucoup aimé. Ouais.
Donc vous écoutez tous les jours de la musique, ça fait partie du quotidien.
Oh oui.
Est-ce que vous avez eu une pensée un peu nostalgique ?
Oui, je pensais à quelqu'un, mais je vous dirais pas qui, mais de malade. Alors je suis un peu inquiet quand même, quelque part.
On espère que ça va s'arranger.
J'espère aussi.
Quelle est la plus belle image que vous ayez en tête ?
Bah, je vous vois, là, vous êtes beau, hein.
Ah, vous êtes gentil.
Avec beaucoup de couleurs derrière vous. Vous êtes noir avec une barbe grise, enfin, le vêtement. Et puis derrière, avec une moto, comme ça, c'est très... Il y a un paysage californien derrière vous, peut-être inspiré de l'anglais, comment il s'appelle, Cockney, David, qui a travaillé en Californie beaucoup, mais ça va me revenir. David. Enfin bon, voilà une image que vraiment, là, qui est en direct, que je trouve belle. Hein. Merci de me proposer ça.
Quelle est la plus moche, peut-être, que vous ayez eue ?
J'ai pas beaucoup aimé ce pont, là.
Ah ouais. On y revient.
Non, j'ai eu du mal avec ce pont Flaubert, c'est ça ?
C'est Maupassant, peut-être. Je sais pas s'il y a un pont Flaubert ou un pont Maupassant. Il y a les deux, ouais.
Celui qui est juste à côté du 106, là.
Eh ben il me semble que c'est le pont Guillaume le Conquérant.
Il s'appelle comme ça ?
Ouais.
Oui, il est infréquentable.
Ah oui.
Ah oui.
Et puis c'est vrai qu'on sent beaucoup en plus la pollution des voitures et tout.
Terrible.
On est un peu essoufflé une fois qu'on l'a passé. Enfin,
ouais. Tout le monde le dit. On a du mal à en sortir. On ne sait pas comment l'entrer, comment sortir. Ouais. C'est... Alors pour les bagnoles, pour les voitures, aucun problème. Alors ça, aucun souci. Mais pour ce qui est des gens à pied ou en vélo, même, c'est pas évident, mais surtout à pied, C'est la croix et la bannière, ce Guillaume le Conquérant. Déjà, je ne sais pas si c'est un beau nom de pont, hein, franchement.
Pour terminer, quatre questions. On vous a vu partout, de France Culture à la France a un incroyable talent, en proximité avec Al Capote ou Laurent Ruquier, une déferlante, une saturation médiatique. Vous parlez à tout le monde. Qu'est-ce que vous tirez de toutes ces rencontres, de toutes ces interviews, de tous ces moments passés? Est-ce que vous en tirez quelque chose?
Ah, pour moi, c'est très important pour mon développement personnel de faire ça. Parce que je ne parle pas énormément dans la vie. Alors, quand on me pose des questions pour des interviews, comme vous le faites aujourd'hui, je peux me permettre de parler longuement. Ce n'est pas des grands monologues, mais enfin, ce n'est pas des choses que je fais habituellement. Donc, ça me permet de me découvrir un peu, de tirer aussi des fils, des fois, que je n'avais pas tirés tout seul, comme ça. Le fait de parler, c'est bien parce qu'on découvre des chapelets qui étaient enfouis un petit peu en vous. Alors, pour moi, c'est vachement bien pour moi de faire ça. Parce que j'ai pas cette habitude, donc c'est toujours bienvenu. Après, il faut savoir s'arrêter. Là, je suis à part pour vous, c'est exceptionnel. Mais là, je suis en pause quand même.
Ouais.
Ah oui.
Et en fait, le fait d'avoir une si large palette, on va dire, de médias qui s'intéressent à vous, ça vous permet aussi effectivement d'aller attraper l'air du temps dans plein d'endroits différents, avec des artistes, avec des questions qui vont être différentes selon l'endroit où vous allez vous trouver. Ça vous permet, ça, vous qui êtes un observateur du monde dans lequel vous dites, hein, vous êtes plutôt un contemplatif, ça vous permet de saisir un petit peu l'air du temps. J'ai l'impression que c'est important pour vous, ça. Et forcément, ça s'entend aussi dans ce dernier album, par exemple.
Oui. C'est très large. Donc, même dans le public aussi, quand on est sur scène, on constate que les gens qui sont dans les salles sont... Il y a des anciens et puis des très jeunes. Donc, c'est très, très large. Donc, ça, c'est une constatation agréable à faire. Mmh. Et parce que c'est vrai que... On ne parle pas de la même chose avec un enfant. Enfin, disons, on parle de la même chose, mais on ne parle pas de la même façon à un enfant ou à une vieille personne. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pareil pour les journalistes. Le feeling est différent pour chaque personne. D'ailleurs, de Téléstar à Télérama, c'est au fond la même chose, si vous voulez, mais c'est la façon de faire qui est différente. C'est dans la forme. C'est différent. Et c'est vachement intéressant, effectivement, enfin, disons que c'est des enquêtes un peu qu'on fait devant des gens différents. Et puis, ça me permet d'être obligé de m'adapter. C'est bien, moi j'aime bien. Et puis, de ne pas répéter la même chose. C'est comme un jeu, un peu, un jeu de piste que j'apprécie de faire.
Il y a eu des moments difficiles sur des plateaux avec des gens pas très agréables. On se rappelle d'une émission chez Koé il y a quelques années de ça. C'était à l'occasion de la sortie de Robot Après Tout.
Après Tout.
Il y a eu également Zemmour qui vous a un petit peu agressé. Vous avez toujours su faire sauter tout ça avec beaucoup de simplicité, cette méchanceté-là. Vous avez une technique à nous fournir contre les gens méchants?
Bon, y a pas de gens méchants, il y a des gens qui pensent ce qu'ils pensent et qui le disent, qui ont le courage de le faire. Et rien que pour ça, je respecte, même j'admire ça, le fait de dire ce qu'on pense. J'en suis bien incapable, moi, personnellement. Donc, j'accueille ça avec joie, hein, le fait d'entendre des choses dures ou très gentilles, j'accueille avec joie, quoi.
Vous offrez votre deuxième joue, en quelque sorte.
Oui, c'est tout à fait. C'est l'image christique que vous donnez, là.
Oui, c'est ça.
C'est mon héros.
Mais j'ai bien compris. Après les médias, c'est le moment de la scène. Comment vous l'avez imaginé, cette tournée? C'est mon avant-dernière question. Même peut-être avant-dernière.
On a fait... déjà, on a constitué un groupe. C'est-à-dire, pour la première fois de ma vie, j'ai demandé... de travailler avec un directeur musical, mais que je connaissais déjà, hein, qui s'appelle Victor Lehmann, qui lui a constitué un groupe. Alors, je lui ai demandé des personnes que je ne connaissais pas, et il a constitué un groupe. Je lui ai fait entièrement confiance, je n'ai même pas écouté ce qu'il faisait, et tout ça. Je lui faisais confiance. Puis on s'est réunis, on a travaillé beaucoup aussi avec Marine Philomène Roux pour la scénographie, qui fait aussi les lumières, avec le son Damien Bertrand. On s'est tous regroupés pendant une semaine à La Rochelle. Et là, on en ressort depuis peut-être une semaine à peu près. C'est notre quatrième concert. Mmh. Donc, on se découvre. Hein. Donc, c'est quand même très agréable. On n'est pas en terrain confortable parce qu'on ne tourne pas depuis des années ensemble. Mais on se découvre chaque moment et c'est merveilleux quand, ces moments-là.
Il y a beaucoup d'interactions d'ailleurs. Je vous ai vu tout à l'heure un petit peu en balance. Il y a beaucoup de discussions. Vous laissez venir les propositions. Vous êtes à l'écoute de tout ce qui peut collectivement produire quelque chose de mieux, en fait.
Oui. Ah oui, je suis à l'écoute, hein, bien sûr. Je n'ai pas du tout d'idée préconçue. On sent aussi que c'est une tournée qui va bouger beaucoup. Hein. On sent que ça va évoluer chaque date. Tout va se préciser petit à petit. Et puis on sent aussi, comme on dit au football, un groupe sain. Et ça, c'est... le Victor Lehmann en question ne s'est pas trompé au niveau du casting. Parce que bien sûr, il y a la musique, mais il y a aussi l'humain. Hein. Après, on est en tourbus, on dort quasiment les uns sur les autres. Donc il y a intérêt à bien s'entendre. Et c'est ce qui se passe.
Et la dernière question, c'est une question de Karine. Forcément, on y revient souvent. Est-ce que vous collectez toujours vos caca?
Bon, je l'ai fait, c'est vraiment une période de ma vie. Je ne les collecte plus, mais je comprends bien pourquoi j'ai fait ça maintenant. Des fois, on fait des choses, on ne comprend pas sur le moment quand on le fait. Mais des années après, on saisit. À l'époque, je me disais, tiens, c'est comme des photographies de la vie, comme des sculptures, des choses qui sont aussi merveilleuses que des œuvres d'art. Éphémères, puisque ça se disloque très vite, et puis souvent on tire la chasse. Donc je voyais ça comme ça un petit peu à l'époque, c'était peut-être il y a, je ne sais pas combien d'années, 10 ans, ou même plus, hein, je ne sais plus. Et puis aujourd'hui, je constate aussi que le caca ou les excréments sont devenus, dans beaucoup de... même dans l'Occident, des choses précieuses et rares et qui peuvent sauver des vies. Les Chinois le savent depuis des années avec leur soupe jaune, puisqu'ils ingèrent des soupes d'excréments humains, ce qui les maintient en bonne santé. Chez les poilus, ils se sauvaient la vie en ingérant des excréments. Et on se rend compte à quel point, au fond, ces choses remplies de bactéries qui contiennent de la vie sont en fait tout aussi miraculeux que la pénicilline, quoi.
Donc, on n'engage pas les gens à faire ça tout de suite chez eux. Hein. Forcément, il faut peut-être avoir une certaine science de tout ça, quoi.
Ou alors, c'est une science... on n'a pas ça, nous, en France, parce qu'on trouve que le caca, c'est dégoûtant, à tort. Mais les Chinois ont élaboré ça depuis 5-6 000 ans. Hein, et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de plus en plus. En Angleterre, vous avez des gens qui font inoculer du caca, et ça marche très bien sur les intestins. Ce que je vous dis est vrai. Hein. Parce que ma réflexion à l'époque, quand je faisais des collections de caca, c'était c'est l'or noir, quoi, beaucoup plus que le pétrole. C'est de l'or en barre, quoi, j'allais dire, qu'il faut savoir regarder. Quand on fait, je connais pas 36 phrases d'écrivains, mais Raymond Queneau qui disait qu'il fallait toujours regarder son caca quand on le faisait dans les toilettes, parce que ça nous indique déjà comment on est en bonne santé ou pas. Et puis, il rajoutait même qu'il ne ferait jamais confiance à quelqu'un qui ne regardait pas son caca après avoir chié. En cela, je suis d'accord, je vais demander à mon groupe là où ils en sont.
Ce conseil-là, je crois qu'on peut le garder. Merci Philippe Catherine.
Merci. Hein.
Merci, au revoir.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Imagine un monde où les robots nous trouveraient beaux. Ils feraient l'amour avec nous et ils auraient des enfants de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi.
Ce soir, double plateau ici au 106. Malik Djoudi sera là dans quelques instants, viendra répondre à quelques questions. Et puis on accueille, alors je ne sais pas trop comment dire, on va dire Léo. Alors déjà, bonsoir Léo Vauquelin, bonsoir Corentin Duval.
Bonsoir.
Bonsoir.
Un artiste qui apparaît dans les radars, un groupe ou un artiste, on va le définir.
Un artiste.
À partir de 2017, avec les premiers morceaux, premiers concerts aussi, et puis depuis quelques mois, accompagné par le 106, avec de la chanson pop impressionniste. On pourrait dire ça par exemple. Sur le programme du 106, il est indiqué donc Pollux en première partie de Malik Djoudi. Alors de Pollux à Léo Vauquelin, qu'est-ce qui se passe finalement pour
Il se passe justement tout ce travail avec la fine équipe du 106 qui, voilà, sous le nom Pollux, je dirais qu'on a, on a posé les premières briques et on a commencé à travailler sur ce que je voulais vraiment. Et comme voilà, là, ça commence à être sérieux et qu'il y a déjà un rappeur dans Basse Normandie qui s'appelle comme ça, il commence à grimper d'ailleurs, donc on le salue au passage. Donc c'était le moment de changer, quoi, parce que voilà, il commence à y avoir des petites choses sympas pour nous de notre côté.
La transition est en cours, on va dire, entre Pollux et puis...
C'est le premier concert ce soir sous mon nom, du coup.
Léo Vauquelin, ça démarre comment, vous, votre intérêt pour la musique?
Oh, ça démarre par des parents ouverts, je dirais. Je leur dois beaucoup, je pense. J'ai écouté beaucoup de choses à la maison. Et justement, je suis revenu vers de la musique française que mes parents ont pu écouter quand j'étais jeune, alors que moi, je n'avais jamais écouté ça, quoi. Et c'est ça qui est fou. Et donc, ouais, je leur dois beaucoup pour ça. Ouais.
Et quel a été le parcours donc, vous le disiez, vous êtes arrivé sur Rouen il y a 3-4 ans, c'est ça? Vous êtes rencontré
4 bonnes années,
ouais, à ce moment-là. Ouais.
C'est quoi le parcours jusqu'à aujourd'hui?
Le parcours jusqu'à aujourd'hui? De l'arrivée à Rouen jusqu'à aujourd'hui?
Mais même un petit peu avant, finalement. Est-ce qu'il y a eu un parcours musical
commun,
avant?
Mais pas commun, en tout cas. C'est
pas
ça
du tout. Ouais,
nous,
c'est ça.
On s'est rencontrés
par le biais en fait, d'un ami. Enfin, moi, je suis arrivé en études, en fait, à ma deuxième année sur Rouen, je suis arrivé en études. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait Léo, tout simplement. Mmh. Et en fait,
et
après,
voilà.
Aiguille, voilà,
Je me suis dit, tiens, il a une bonne tête, je vais me le prendre dans mon groupe.
C'est ça. Et puis, moi, j'étais pas forcément en mode, ouais, je suis un bon bassiste ni rien et tout. Et il m'a dit, vas-y, viens avec moi, j'aurais besoin de toi.
Je le force un peu au final.
C'est ça.
Et Léo, vous, votre parcours jusqu'à ce premier EP, par exemple?
Il y a eu un groupe de lycée qui a été important, en tout cas pour moi, qui a pas forcément beaucoup bougé, mais qui m'a fait dire que j'aimais beaucoup la musique finalement. Après je fais de la musique depuis que j'ai 8-10 ans, j'ai commencé par la guitare, des trucs comme ça, donc ça fait déjà longtemps quoi que je trifouille à tout ça, à tous ces objets qui font des ouïes.
Alors en 2017, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques morceaux mis en ligne qui ont disparu depuis, parce que ça correspondait plus à ce que vous vouliez montrer, ce que vous vouliez faire entendre.
Ouais, il y a énormément de ça, ouais. Et puis cette phase-là où je publiais souvent sur YouTube, j'estime avoir changé de style aussi. Donc c'est une question d'esthétique, je pense.
C'était une période où vous vous cherchiez un peu, peut-être.
Ouais, je pense, ouais, parce que même tout ce qu'il y avait sur YouTube, c'était vachement différent par chaque morceau. À chaque fois, je recherchais des nouvelles choses. Et là, je suis fixé enfin sur un style qui est électropop.
Vous avez trouvé la direction que vous deviez emprunter. Il y a eu un premier EP intitulé « Sors de ton confort » qui voit le jour en avril dernier.
Tout à fait.
Ça veut dire que vous, en tant qu'artiste, il a fallu vous mettre un peu en danger à un moment donné? Non, pas forcément.
Non, pas forcément. Moi, je pense que ça reflète plus la vie d'un vingtenaire qui se pose des questions et qui parle de son environnement. Et puis voilà, je pense qu'on est dans un âge où on doit prendre des décisions, on doit se forcer justement à sortir de son confort pour avoir ce qu'on veut dans la vie,
la vie qu'on veut, tout simplement.
Donc je pense que le message de ce premier EP, c'était ça. Ouais. Maintenant, le deuxième, le premier single qui est sorti là, c'est plus large, je pense. Ça parle plus uniquement de moi, en fait, je pense.
Alors, la dernière sortie du e-label du 106 Alt-DSL, avec deux morceaux de Léo Vauquelin, Exil et Mon Amour, que vous pouvez retrouver en passant par le site du 106. Alors, expliquez-nous, tiens, comment on en arrive à enregistrer deux morceaux avec Laurent Collat de la team accompagnement du 106, ici?
Comment on fait? Moi, je suis pas sûr qu'il y ait de vraies marches à suivre. Mais en tout cas, c'est une grande aide. Ça ne répond pas à votre question.
C'est surtout, puis même, c'est aussi l'implication que tu as eue, je pense, dans ton projet, en fait. Parce mine de rien, tu vois, genre, tu as quand même été parrainé par le 106 et tout, c'est une chose, tu vois, mais au-delà de ça, tu t'es quand même beaucoup plus impliqué et montré, en fait, que tu en voulais. Donc, du coup, je pense que ça joue aussi sur leur envie, peut-être, de te produire, en fait, un EP, tu vois.
Ouais, peut-être, je sais pas. Je veux pas dire ça, en tout cas.
C'est ça. Enfin, voilà, on parle pas en leur nom ni rien, quoi. Mais sans explication, c'est la seule chose qu'on pourrait se dire, quoi.
Comment ça s'est passé? Parce que j'ai l'impression. Moi, j'ai discuté un petit peu, pour être honnête, avec les gens de l'accompagnement. Je suis allé voir, je leur ai dit, mais Léo Vauquelin, alors expliquez-moi d'où vient-il, que fait-il ici? Et ils m'ont dit, Léo Vauquelin, en fait, il a toqué à la porte, il est tombé du ciel, et on s'est dit, il y a un truc, quoi.
Ouais.
Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Ouais, carrément. Ouais. Et puis, quand j'ai reçu justement cette confirmation de parrainage par le 106, ça m'a beaucoup ému aussi, quelque part, parce que c'est une certaine forme de reconnaissance. Et voilà, quoi. Et puis, j'estime qu'on fait du bon travail ensemble. En tout cas, ils m'aident beaucoup, en tout cas. Ou ils m'ont beaucoup aidé.
Et vous avez eu vous avez eu un discours particulier? Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai envie de faire une carrière en tant que musicien, j'ai un univers à trouver. C'était quoi le...
Alors, la problématique quand je suis arrivé justement avec la fine équipe, dont Laurent Collat, Arthur Lombard, Julien Normand, etc. Les divines. La problématique, c'était que justement, je m'éparpillais un peu trop dans tous les styles, quoi. Donc, il fallait se recentrer, travailler sur les boîtes à rythme, les sons que je voulais vraiment avoir pour faire des références au final à ce que je veux. Donc voilà, ça a été un travail sur l'esthétique, sur le choix des instruments, Et voilà, des choses que je n'avais pas du tout conscience avant. Ouais.
Et j'imagine qu'avec Laurent Collat, qui est un ingénieur du son, qui...
Un sacré DJ aussi.
Comment est-ce que vous avez travaillé tout ça ? Il y a eu une discussion autour de ce que vous vouliez faire, des instruments que vous vouliez utiliser. Il vous a proposé des choses. Ça vous a ouvert des portes, des voies. Comment ça s'est concrétisé tout ça ? Comment vous avez enregistré ces deux morceaux finalement ?
Bah écoutez, je sais pas, je pense qu'il est arrivé aussi au bon moment parce que moi j'étais en train de prendre justement cette tournure électronique et du coup ouais, il m'a beaucoup aidé sur oui le choix des sons et tout ça, mais j'ai perdu votre question.
Qu'est-ce que ça a ouvert comme porte ?
Qu'est-ce que ça a ouvert ? Ah bah ouais, encore cette curiosité, ouais, et puis ça donne puis plein de connaissances, ouais, justement sur parce qu'il est, calé, quoi. Non, c'est une référence vraiment dans ce milieu-là, je pense.
Au début de votre petite bio, elle est très courte, oui. Celle que, sur laquelle je suis tombé en tout cas, on peut lire « Ce jeune Rouennais traite avec une certaine naïveté les problèmes de génération qu'il a pu rencontrer ». Vous avez l'impression d'être un peu naïf, Léo Vauquelin ?
Oh, bah, c'est pour me couvrir aussi, du fait du jeune âge. Hein. Voilà. J'ai pas envie de donner des conseils à des gens de 40 ans ou plus, quoi. Donc ouais, c'est pour aussi... se protéger un peu de son discours, je pense. Ouais.
On entend dans votre voix une proximité avec Dao en ouverture ce soir de Malik Djoudi, lui-même fan de Dao, ouais. Soutenu aujourd'hui par lui. Il a enregistré un duo avec lui qu'on peut entendre sur son dernier album. On va en parler avec lui tout à l'heure. Elle est plutôt logique, cette première partie-là.
Oui, elle fait bien plaisir aussi. Bien sûr, oui.
Vous reconnaissez dans le parcours et dans la proposition d'un Malik Djoudi, par exemple ?
Étonnamment, là c'est pareil, c'est des choses qui reviennent à vous, je sais pas, enfin, Malik Djoudi, moi j'ai découvert il y a 2-3 ans avec Sous Garantie justement, c'est toujours resté, et puis au final, voilà, ça se présente à moi aujourd'hui, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qu'on a découvert dans les années précédentes, et au final qui restent, et si on travaille bien, peut-être que ça fait des liens, mais j'ai pas... l'impression que j'ai cherché à faire ce lien-là, en tout cas, pour être plus clair.
Léo Vauquelin, donc tout à l'heure sur la scène du 106 pour ouvrir le concert de Malik Djoudi, ce sera au club. Bah, merci à tous les deux pour cette première interview et puis bonne route à vous.
Elle pense à prendre les routes, c'est les mers pour s'éloigner. De ses frontières, comme prisonnière de son pays, victime des choix qu'ils ont brandis. Elle parle, elle dit, dehors les gens seront pires, qu'ils comptent leurs sous et bloquent les martyrs. Noé ne les a jamais laissés périr. Bien qu'animal se bat pour leur survie. Pas comprendre cette vie, ça je peux comprendre. Donner le tournis, y'a tout. La grâce.
Malik Djoudi est avec nous. Bonsoir à vous, merci d'être là.
Merci, merci, bonsoir à vous.
On vous a déjà reçu, c'était en février 2018, on en discutait c'est un ça. Petit peu dans le couloir en venant ici. Donc on vous connaît un peu, on renvoie celles et ceux qui voudraient raccrocher les wagons sur le site du 106 où on trouve votre interview. On apprenait notamment que vous venez de Poitiers, que Carmen, l'opéra, votre maman, Gainsbourg, Supertramp, l'amour, le lyrisme, l'onirisme et Klaus Blaskies, le chanteur de Magma, furent des inspirations parmi toutes les autres, des maîtres aussi pour Klaus Blaskies et son cours de chant. Vous êtes passé par différents groupes, dont Moon Palace. Vous avez enregistré votre album d'ailleurs avec, si j'ai bien compris, l'ancien batteur de Moon Palace, c'est ça? Non, je me trompe?
J'ai enregistré mon album?
Oui.
Non.
Non, vous avez travaillé avec lui un peu sur les chansons ou pas? Non,
non, du tout. J'ai travaillé toujours seul sur ce deuxième album. Et sur la fin de l'album, j'ai fait appel à un ami à moi qui est Amaury Ranger, qui travaille avec François Indy Atlas Mountain.
Ah, donc j'ai peut-être confondu avec ça. Et c'était du côté de Poitiers ou pas du tout?
Ah, lui, il est de Saintes. C'est la même
région. Dans la même région.
Ouais, Poitou-Charentes.
Effectivement, François Indy Atlas Mountain, qui est aussi en Charente, pas très loin. Vous connaissez un peu? Vous avez fait des choses ensemble?
On a fait des choses ensemble. On va en faire certainement encore. Et surtout, c'est le petit vivier, le Poitou-Charentes. On s'est rencontrés sur des tremplins quand on était plus jeunes. Et puis depuis... on se quitte plus trop, c'est un peu la même famille musicale avec d'autres gens.
Ouais, mais j'ai ce qu'on se disait aussi en arrivant au studio, c'est que j'ai regardé le reportage sympa de Sourd Oreille, d'ailleurs Sourd Oreille qui est un collectif au départ qui part de Rouen, dont Anne-Charlotte a fait partie d'ailleurs, et donc qui a fait un sujet sur vous à Poitiers. J'ai l'impression que Poitiers, ça reste vraiment un endroit important pour vous, et avec justement cette famille de gens avec qui vous avez traîné, vous avez fait de la musique.
Carrément, parce que c'est un endroit où c'est calme, c'est tranquille, on peut faire du bruit, c'est la famille, c'est les amis, c'est retour aux sources, c'est beaucoup d'inspiration, c'est beaucoup de tranquillité. Aujourd'hui, j'habite plus à Poitiers pour le boulot, quoi. Mais c'est vraiment le retour aux sources, quoi. C'est vraiment cool. Et c'est une petite ville... où il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà.
Vous étiez venu ici, donc à cette époque, donc on disait en février, vous aviez un mini-album. Aujourd'hui, l'album est là, il s'intitule Tempérament. Vous étiez en première partie, vous voici tête d'affiche. On vous entend sur les radios nationales, etc. Ce succès, il arrive après donc un parcours déjà très riche. Est-ce que vous l'attendiez, ce succès-là, à Poitiers, justement, par exemple, à l'époque où vous traîniez avec The Atlas Mountain, où ça jouait un peu, voilà, où vous faisiez partie du décor, on va dire, musique du coin.
Ce succès, est-ce que je l'attendais? Je sais pas, mais surtout ce que j'attendais, en fait, inconsciemment certainement, c'était de faire mon projet, de faire, voilà. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que si on veut vivre de la musique, il faut avoir du succès. Mais alors, peut-être aussi inconsciemment, je l'attendais. Mais j'avais toujours cette envie de faire vraiment, de me trouver artistiquement, de trouver mon axe, et j'avais envie de ça. Voilà, j'ai comblé ce trou.
Il a fallu chercher longtemps pour trouver justement ce que devait être ce Malik Djoudi qu'on connaît aujourd'hui.
Vraiment, il a fallu très longtemps. 35, 36 ans.
Ouais.
Et il a fallu longtemps, il a fallu perdre des choses, en gagner d'autres, faire des sacrifices sur des choses, écrire en français.
Ah oui, ça fait partie des...
C'est le déclic.
Ouais. Et alors, on en avait parlé aussi, il y a une sorte d'élément déclencheur, c'est le Vietnam. Je voudrais qu'on creuse ça juste un tout petit peu.
Bien sûr.
Vous retrouvez vos racines, ou les racines de votre grand-mère, et vous décidez à partir de là de vous lancer dans cette aventure solo. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous êtes allé chercher là-bas, au Vietnam, et ce que vous avez trouvé?
Et ma grand-mère qui était un pilier de ma famille, vraiment qui était vietnamienne, qui m'a éduqué aussi, avec qui j'ai passé énormément de temps, qui avait une culture complètement différente de ce que je pouvais vivre et qui m'a apporté beaucoup de sagesse et avec qui j'adorais discuter, avec qui j'adorais passer du temps. Et voilà, elle est partie, quoi. Et donc je suis allé à la recherche de son village, d'où elle venait. Même pour les violons, j'ai pris ces cendres et je les ai ramenées là-bas. Et j'ai découvert plein de choses, surtout j'ai découvert un peu d'où je venais, quelle mentalité, j'ai retrouvé des mentalités, une culture qui est imprégnée en moi, je pense, mais que je ne connaissais pas. Et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a apporté beaucoup de confiance, parce qu'à ce moment-là, en plus, j'ai failli arrêter la musique, parce que je n'arrivais pas à trouver mon axe. Et voilà, je suis revenu de ce voyage, je suis parti tout seul. Et de partir tout seul, ça peut être, ça m'a apporté pas mal de confiance de faire ça. Et je suis revenu et j'ai posé des accords et des mots en français sont venus. Et ça m'a accompagné. Et puis surtout, ma grand-mère m'a accompagné tout au long de ce voyage.
Vous avez des obsessions, l'amour, uh-huh. la solitude, uh-huh. la nuit, uh-huh. les folies douces. Et votre album se termine avec un train de nuit. Uh-huh. Et ça commence très sombre, ce morceau, avec une espèce de vrombissement. Et puis, il y a les petits oiseaux qui arrivent, en fait, à un moment donné. Et puis, c'est un train qui vous emmène vers l'aube. Vous rêvez encore à une autre vie, vous, Malik Djody ?
Une autre vie, oui. Surtout, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir être totalement heureux tant que ça n'ira pas à côté de moi. Quoi. C'est tout. Mais ça, est-ce que ça pourra se changer ? Je ne sais pas, j'espère un jour. Mais je rêve de ça. Je serai plus apaisé si ça va mieux autour de moi. Je parle de tout ce qui se passe autour de nous. Ça, j'aimerais beaucoup. Et après, une autre vie, c'est juste à moi de le faire. Mais oui, j'ai envie de vivre une autre vie. Vous savez,
On a tous envie de vivre d'autres vies, en fait.
Après,
est-ce que ça s'arrête un jour ?
Ah non, oui, c'est vrai. Et puis ça permet parfois de se dépasser ou quoi. Mais une autre vie, c'est juste, moi et avec moi-même, dans le sens où j'aimerais bien être plus rigoureux, être plus sain, être un peu plus adulte, parce que vraiment, je suis vraiment qu'un enfant.
Ouais, mais est-ce que c'est pas ça finalement être un artiste, c'est garder
bien
cette
sûr.
Âme d'enfant et puis et malheureusement aussi être sensible peut-être aux douleurs du monde aussi. Et
oui.
Voilà, ouais. et c'est de les exprimer finalement qui nous fait du bien à vous comme à nous finalement.
C'est sûr. Non, mais après voilà une autre vie. Je vous dis oui, mais peut-être pas parce que j'aime bien être comme ça et comme vous dites, ça me permet de faire ce que je fais. Et j'aime bien avoir des doutes, des peurs, que ça aille pas trop, et puis voilà, ça me fait avancer, mais aujourd'hui je vais bien et ça va, quoi.
Voilà. Et en même temps, le duo avec Dao, le clip à tes côtés, alors vous l'avez tourné dans la salle semi-anéchoïque du centre de transfert de technologie du Mans. Mm-hmm. Pourquoi le choix de cet endroit, c'est particulier, il y a une envie particulière ou...
Parce que j'ai eu l'idée au départ d'avoir une salle blanche comme ça.
C'est une chambre sourde un peu.
Exactement,
comme à l'IRCAM.
Et c'est incroyable, hein, c'est assez flippant parce que là on a tourné, la porte était ouverte, ça allait, mais quand on ferme la porte, vous voyez, au bout de 30 secondes vous entendez votre cœur, au bout d'une minute 30 vous entendez votre sang, et au bout de 2 minutes 30 vous ne pouvez plus rester dans la salle parce que si vous perdez votre oreille interne. Et ça, c'est assez bizarre.
Ouais.
Et j'avais juste l'idée d'avoir cette chambre. J'avais visualisé ça, une chambre blanche, voilà, un côté peut-être un peu paradis. Et le réalisateur, Antoine Carlier, a trouvé cet endroit qui est superbe.
Mais d'ailleurs, vous qui aimez bien expérimenter le son, on a vu, il y a une petite vidéo de Brut qui tourne un peu sur les réseaux où on vous voit composer, écrire une chanson. Vous commencez en tapant un petit peu sur votre ordinateur, vous faites le rythme comme ça et puis la chanson avance, vous rajoutez une nappe, il y a un chant qui arrive, voilà. Vous qui aimez travailler sur les sons comme ça pour produire votre musique aussi, peut-être encore aujourd'hui, quand on entend ces sons dans cette salle-là, les sons de son corps, est-ce que ça ne vous a pas donner des idées de musique aussi.
Vous savez, j'ai aussi, c'est marrant.
Vous avez l'oreille, ouais.
Oui, mais c'est tous les sons, la dernière fois, je suis allé passer un scanner, juste comme ça, et il y avait un son, mais c'était horrible, et je me suis dit, mais il faut absolument, j'ai demandé au docteur si je pouvais venir enregistrer, et je vais le faire.
Ah oui, vous êtes comme ça, vous êtes à l'affût des sons comme ça.
Ah ouais, parce que avec le sampling, aujourd'hui, vous savez, si vous structurer le son, ça peut devenir n'importe quoi.
Ouais.
C'est génial. Et puis ça fait votre propre son. Voilà.
C'est une autre obsession, ça, les sons, j'ai l'impression.
Ah ouais, et puis de plus en plus. Alors qu'il y a 10 ans, je me disais, non, mais ce qui compte, c'est la composition, la musique et tout ça. Mais en fait, le son fait la musique.
On parlait de ce duo avec, avec Dao. Forcément, on a envie de vous demander ce que vous lui devez à Étienne Dao.
Qu'est-ce que je lui dois, Étienne? Je sais pas si je lui dois quelque chose, mais je dois juste, beaucoup d'amour, d'amour, d'amitié, de reconnaissance envers lui pour tout ça. Après, c'est juste un ami pour la vie, je pense. C'est, voilà, une entente. Mais est-ce qu'on se doit des choses avec Étienne Dao? Je suis pas sûr, mais je lui donnerai toujours des choses. Et je pense qu'il m'en donnera toujours aussi.
Quand vous parlez de musique tous les deux, ça vous arrive?
Oui, bien sûr.
Vous parlez de quoi? C'est quoi votre dernière conversation avec lui, par exemple, autour de la musique, vous vous souvenez?
C'est juste Étienne Dao qui me fait écouter des vieux groupes, des choses que je connaissais pas. Et il me fait écouter ça. Après, vous savez, quand on parle de musique, c'est très abstrait, c'est juste sur des ressentiments. On se dit pas, tiens, t'as vu, si tu termines en mi mineur là-dessus, non, on parle pas de ça. Mais c'est surtout des ressentis, toujours, avec Étienne Dao, c'est toujours des ressentis.
Et puis c'est quelqu'un qui aime partager aussi sa passion pour la musique, quoi.
Complètement, c'est un puits de science musicale. Et puis autre, sur le cinéma, sur l'art en général, c'est assez incroyable, Il parle, et puis il fait toujours des liens entre les choses. On a des choses comme ça dans la vie, c'est des choses précieuses, et Étienne Dao en fait partie.
Vous tournez beaucoup là, vous arrivez à écrire, composer en ce moment d'autres chansons ou...
Pour le moment, je fais pas mal de... on tourne beaucoup, mais je fais pas mal de choses pour les autres. Voilà, je fais la musique à l'image, je fais un remix, je fais la musique pour d'autres, et je réattaque... pour moi, mais...
Beaucoup de travail, quoi.
Ouais. Mais j'adore.
La musique à l'image, c'est quoi? C'est un film?
Documentaire. Synchro. Et bientôt un film.
Ah, c'est bien ça. C'est génial. Ça doit être, vous pouvez nous en dire plus ou c'est pas le moment?
C'est pas le moment, mais bon, bientôt.
On en parlera. Il y a juste peut-être pour terminer une petite balade en Amérique du Nord, j'ai vu. Qu'est-ce que. Non, vous n'êtes pas.
Si,
c'était cet été, l'été dernier, non?
Ouais, juin.
Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas?
Ouais, tout simplement, on allait à nous. Enfin, on a passé un mois de juin. On est parti le 1er juin à La Réunion, jouer. C'était fou, on est dans un festival de ça qu'il faut, avec une scène qui était juste à côté de la plage. Après, on est revenu un jour à Paris, et après on est parti jouer à New York, dans un club, après dans une grande salle. Et là, on est tout petit, et c'était fou. Voilà, vous savez, c'est toujours comme ça. Il y a 4 ans, j'étais dans ma chambre, et en juin, on allait jouer à New York.
Ouais.
Et après on allait jouer à Montréal, et après on a fait la fête de la musique à Berlin. Voilà.
Bon, la vie est belle finalement.
Ouais, la vie est belle. Puis surtout, c'est toujours génial de, vous voyez, la France, les régions sont vraiment différentes, les perceptions, enfin les perceptions qu'on a, les accueils publics sont différents. Et après quand on part aux États-Unis comme ça, ou même dans d'autres pays, les différences culturelles, elle est vraiment pas la même, et donc j'avais l'impression de jouer une autre musique. Voilà, et de redécouvrir ma musique.
Malik Djoudi, merci d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
À bientôt.
C'est toujours cool ici.
Ouais. Mais c'est cool de vous avoir aussi avec nous. Merci.
Merci beaucoup.
Radio Lomax, c'est terminé pour cette dernière semaine de concerts de l'année au 106. Vous retrouverez mercredi 18 décembre Oxmo Puccino et samedi 21 décembre Guillaume Meurice and the Disruptives. À la semaine prochaine.
m'adapter et accepter, mais j'aime pas le mot doux.